Aujourd'hui, nous entamons la cinquième Mishnah du Pirkei Avot. Yose ben Yochanan ish Yerushalayim Omer. Donc c'est le deuxième Zoug, on avait vu dans la Mishnah d'Alet. Le premier qui avait parlé, maintenant c'est un rabbi, Yose ben Yochanan ish Yerushalayim Omer. Heye betera, les deux parlent de la maison. Regardez dans le dernier cours sur la Mishnah, on avait parlé de la maison qui doit être l'accueil des sages. Ici, Rabbi Yochanan dit la maison doit être l'accueil de tout le monde, pas que des sages. Yé betecha ptucha patuach l'erevacha, que ta maison soit ouverte aux quatre coins. Veiyu ani'im bnei betecha, et que les pauvres soient comme les enfants de ta maison, comme les enfants de ta maison. Et tout d'un coup, on passe à autre chose. Ve'al tarbe sicha imaisha, mais ne parle pas trop avec les femmes. Avec la femme. Quelle femme? Ta femme. Beishto. On parle de sa femme. Amrou. Il ne faut pas trop parler avec sa femme. Kalvechomer Beishet Ravero. A plus forte raison avec la femme de son prochain. Mikan Amrou. De là, on dit les sages. Kozman Shadam Marbe Sichay Maisha. Chaque fois que l'homme abonde dans la discussion avec la femme, Gorem Ra'al et Atzmo. Il entraîne du négatif pour lui-même, ou botel midivrei Torah, et il annule le savoir de l'étude de la Torah. Vesofo yoresh geinom, et à la fin, il héritera de l'enfer. Bon, alors on va essayer de comprendre tout ça. Alors, ce que nous dit ici, Yosef ben Yochanan, Ishi Yerushalayim, d'abord on va commencer, que ta maison soit ouverte. Alors l'ouverture de la maison, ça, c'est, encore une fois, on en a parlé un peu la semaine dernière, enfin, au dernier cours. C'est toute la problématique, encore une fois, du privé-public. Que ta maison privée soit une maison ouverte, en même temps, qui se protège des lumières, pas des lumières, de l'obscurité médiatique, de tout le bourrage de crâne. Pas intéressant, ça détruit l'intériorité. En d'autres termes, c'est important d'avoir un espace privé, un espace public. Il ne s'agit pas ici d'annuler l'espace public en espace privé en faisant rentrer tout le monde dans la maison au point que ça devient comme un espace public. Non. Bien que on avait des grands rabbis comme Rabbi Chaim de Brisk qui incarnait tellement cette Mishnah où les pauvres mangeaient chez lui, dormaient chez lui sans demander. Un jour, il y avait des gens qui dormaient dans son lit. Il ne disait rien. Dans son lit. Il dormait par terre. Des pauvres. On lui prenait ses livres, sans lui demander, on lui volait ses livres. Il n'y a qu'une fois où il s'est un petit peu énervé, soi-disant, c'est qu'on lui avait pris un livre qu'il devait absolument étudier sur son standard. On lui avait même ça. Mais il avait une maison anarchiste, où tout le monde rentrait, tout le monde mangeait, au point où sa femme, qui était une grande sadéquette, elle disait, Reb Chaim, mon mari Chaim, il a la émouna, mais c'est moi qui dois payer la macolette. Donc il manquait le supermarché, comment ça marche? C'est trop! Mais c'était pas trop. C'était l'infini de tzadikout de Rav Chaim de Brisk. Qu'est-ce qu'il disait à ce moment-là? Et qu'est-ce qu'il incarne à ce moment-là? Cette notion d'accueil. D'accueil, un, des voyageurs, que ceux qui ont besoin de toi, ils rentrent chez toi. Deux, des pauvres. Alors on va s'arrêter 2 minutes sur ces idées qui sont très importantes. La première idée, c'est comme on l'a dit, c'est qu'il s'agit de trouver un équilibre où l'espace privé, l'espace public n'est pas annulé. Parce que c'est très important d'avoir un espace intime, privé, à toi. Et un espace public. Parce qu'il y a deux façons de vivre. Un public et un privé. Au point où le Maharal de Prague dit qu'il y a une mezouza et que la mezouza doit t'éveiller quand tu passes d'un espace à l'autre. Alors c'est quoi ces deux espaces? C'est pas du tout comme dans la civilisation Goy où la maison privée est un endroit qui te dispense de la loi. Ça on en a parlé aussi à la Mishnah 4. C'est pas un endroit où tu as le droit de faire ce que tu veux, fichez-moi la paix, puisque personne ne me regarde. Si c'était comme ça, ça serait une loi qui ne serait que purement sociale. Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit que dans l'homme, il y a beaucoup de dimensions, mais il y a deux dimensions très importantes. L'une où il médite, l'une où il est avec lui-même, l'une où il est en train d'essayer d'écouter ce qui monte en lui sans forcément agir. Une sorte de méditation. Qui se passe d'ailleurs plutôt la nuit. C'est pour ça que Maïmonide dit que le Icar, l'essentiel, d'acquérir la Torah, c'est la nuit. Parce que la nuit, c'est un moment de méditation, un moment de passivité. De passivité où je ne suis plus l'acteur, ni la locomotive de ce que je vais recevoir. Je reçois. Je suis capable de cueillir les fleurs célestes. Je suis capable d'écouter des choses qui sont très étrangères à moi. La journée, l'espace public, c'est le moment où je construis, où je fais des choses magnifiques, du chesed, où j'enseigne la Torah, où je construis des collèles, où je construis des yeshivot, où je construis des écoles, où je construis même pour la cité des aménagements, etc., etc. C'est l'endroit où l'homme est le maître du monde, puisque Dieu lui a donné le monde. Magnifique. Mais il faut ça c'est l'espace public. Mais l'espace privé, c'est l'espace où la personne se retrouve seule, dans une sorte de méditation, où elle laisse écouter les choses presque imperceptibles, les choses très très profondes en lui, que la trépidation et l'action de la journée et de l'espace public masquent complètement, ne permettent pas d'y approcher, Bichlal. Donc ces deux, alors on pourrait croire à ce moment-là, on aurait la finesse de la vérité de la Torah, pour arriver à cette plénitude, à cette méditation, pour arriver à cette intimité de soi, je suis obligé d'être seul. Je suis obligé de fermer ma maison à ceux, aux nécessiteux. On dit non. Parce que, au contraire, c'est pas juste malgré cela, il faut. Comprenez bien. Regardez la profondeur du texte. Le texte dit que ta maison, elle est patoir le revacha. Et que les pauvres soient les enfants de ta maison. C'est-à-dire que tu es dans ta maison, il y a ta femme, il y a tes enfants. Maintenant, tu ne peux pas arriver à cette intimité, à cette méditation. Tu ne peux pas arriver à l'illumination intérieure si cette maison ferme la porte aux nécessiteux. Parce que ça voudrait dire que ta maison, que ta méditation est une méditation un peu comme les bouddhistes, les zen, de bourgeois. Où la seule chose que tu cherches, c'est la satisfaction d'une plénitude intérieure, d'être bien dans sa peau, de respirer, d'être à l'écoute de ce qui est en moi. Mais en vérité, le but de tout ça, c'est quoi? C'est la satisfaction d'être. C'est une horreur. La satisfaction d'être équilibré, si vous préférez. La satisfaction de tout simplement d'être, que Dieu le préserve. L'homme, le juif, a dans sa courbe la plus profonde, c'est un être qui est là pour donner. Parce qu'il ressemble à Dieu. Or, Dieu donne, puisqu'il crée le monde. Donc l'homme, s'il est vraiment lui-même, s'il est vraiment dans la méditation intérieure, il n'est pas complètement passif. Il est dans une méditation ouverte de l'accueil, de l'amour, du don, où il invite des gens à manger, où les gens sont chez lui comme chez... où les gens se sentent chez lui comme chez eux. Parce que cet espace de calme et de sérénité intérieure, il le donne aux autres. Comme Dieu nous donne le monde, nous sommes tous des mendiants de Dieu. Nous sommes tous des mendiants de Dieu. Nous sommes tous des gens qui ont reçu le pain, l'eau, la vie de Dieu. Et donc, on doit exactement dans le même mouvement essayer de rendre un tout petit peu que notre maison soit une maison d'accueil pour ceux qui ont besoin de pain, d'eau et de vie. Et donc, à ce moment-là, il n'y a plus du tout de quand on le fait comme ça, il n'y a plus du tout de contradiction entre la vie intérieure et le fait d'accueillir des étrangers à la maison. Au contraire, c'est le fait d'accueillir ces étrangers à la maison donne à la vie intérieure une dimension de vérité et non d'égoïsme. Alors que si le fait que j'ai besoin de me ressourcer, de me retrouver, me pousse à ne plus voir les gens dehors, en réalité je suis dans un égoïsme qui amène tout le temps au malheur, à la dépression, à la nullité absolue. Et donc ça c'est un enseignement cardinal. Puisqu'on nous dit, sois toi-même dans la plénitude du recueillement, casse avec la trépidation de l'espace public, retrouve-toi dans le recueillement de l'étincelle divine, le soir chez toi dans l'intimité. Mais que cela soit accompagné de la générosité pour l'autre. Parce que s'il n'y a pas de générosité pour l'autre, tu rentres dans un souci spirituel bestial de toi-même. Pour que ça ne soit pas bestial de toi-même, tu es obligé d'offrir, de donner. Et donc, premier enseignement. Ouvre ta maison. Alors là, on passe tout d'un coup. Ve'al tarbe sicha imaisha. Quel rapport? Ne parle pas avec la femme. On parle d'accueillir les pauvres. Quel rapport ici avec la femme? Alors ici, on touche à un point très difficile. C'est que le fait d'être généreux, le fait d'aller vers les autres, le fait d'acquérir les autres, c'est magnifique. Mais il y a un danger. C'est que cette générosité, cet amour, crée des proximités qui peuvent très vite dévier vers la faute entre l'homme et la femme. En d'autres termes, quelqu'un qui est égoïste, qui pense qu'à lui, même spirituellement, qui est là toute la journée en train d'étudier sa Gemara et qui s'en fiche complètement des autres, il va être plus protégé que le vrai tzaddik qui étudie la Gemara, mais qui est attentif aux besoins des autres. Il va être beaucoup plus protégé, mais il va perdre à la fin, en fin de compte beaucoup plus, parce qu'il n'a rien fait de sa vie, si ce n'est de s'auto-exalter. Donc, on a besoin d'actions de chesed, de charité. Bien entendu, il faut. Mais il ne faut pas que cette charité, à un moment donné, annule les limites qui doivent exister entre l'homme et la femme, et même entre sa propre femme, on va voir pourquoi. Pour que cette charité ne tombe pas dans un laisser-aller. Et bien entendu que donc, quand on nous a enseigné que la maison doit être ouverte, et qu'on nous dit ne parle pas trop avec la femme, c'est complètement corollaire. Parce qu'une maison vraiment ouverte, ça peut être aussi une maison ouverte à toutes les bêtises. On te dit attention, maison ouverte, recueillement, habitacle, où la lumière de Dieu, du don, de la générosité divine, se fait écho. Mais fais attention que là où il y a de l'amour, là où il y a de la générosité, on n'est pas loin du dévissage du znout. C'est comme ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pour ça que Ishmaël, qui vient d'Abraham, et qui est une déformation du chesed, est considéré dans la Torah comme le cœur palpitant du znout. C'est le znout. Quand on dit qu'Ishmaël mesachek, Rachidi, il faisait du znout. Ça veut dire qu'il y a cette notion du chesed. Parce que le chesed annule les interdits. Le chesed, ça annule les interdits. C'est important, c'est l'amour. Et l'amour, pourquoi est-ce qu'on ne se ferait pas plaisir jusqu'au bout, etc., etc. Et donc, il y a un danger dans le chesed. Ceux qui font du kirouv, par exemple, ceux des gens qui vont aider d'autres juifs à retrouver la Torah, il y a des très grands dangers pour eux. C'est comme ils écrivent même dans les sparim, il faut faire très attention, etc., etc. Parce qu'il y a, à un moment donné, quand on s'occupe de chesed, quelque chose qui saute, qui n'est plus là. Puisque l'autre, c'est moi, c'est l'autre, on peut très vite céder à toutes sortes de bêtises. Il faut ramener cette retenue. Ne parle pas trop. Fais à ton maximum pour aider les autres. Mais ne parle pas trop. Il y a un moment donné où la relation trop poussée, elle ne sert plus à rien. Elle est destructive, elle est plus constructive. Et donc là, on nous dit, même avec ta femme. Alors pourquoi avec ta femme? Alors il ne s'agit pas ici, il faut faire très attention. Que quelqu'un qui écouterait ça dirait, maintenant je ne parle plus à ma femme, alors qu'elle a besoin, dès qu'une femme a besoin qu'on lui parle, il n'y a pas de plus grande mitzvah que cela que de lui parler. Quelqu'un qui ne parlerait pas avec sa femme, parce qu'il aurait mal compris ce Pirkei Avot, en disant, il y a écrit, Altarbe Sicha Ima Isha. Altarbe Sicha Ima Isha. Beishto Amru. On a parlé de sa femme. Donc je ne vais pas trop parler à ma femme. Ça, c'est une erreur cardinale. Quand une femme a besoin d'être écoutée, ou qu'elle a besoin qu'on lui parle, il n'y a pas de plus grande mitzvah que de parler à sa femme. Même si ça peut être des heures, ce n'est pas le problème. Le problème, ce que là, le Mishnah, et donc ça, il faut bien comprendre, il faut bien le dire. Celui qui se tait sous prétexte qu'il va être un tzaddik alors que sa femme souffre du fait qu'il se tait, c'est un idiot, ce n'est pas un thème traham, c'est un idiot. Un idiot qui est très souvent haï par Dieu lui-même. Des gens qui se comportent comme ça non, sont des gens qui sont haïssables. Donc c'est très important d'être à l'écoute du besoin de sa femme. Par contre, attention, si on établit une relation de blablabla, de parole, ou en vérité on dit plus rien, mais on n'est que là pour parler. Et ça répond à aucun besoin réel, en tout cas un besoin profond. C'est un besoin superficiel parce qu'on a des mauvaises vies, parce qu'on a une mauvaise éducation, et on a toujours besoin de parler. Ça, on dit stop. Ça, la femme ne souffrira pas de ça, au contraire, ça lui fera le plus grand bien. De dire, à un moment donné, et le Maharal de Prague explique, parce que l'homme, le masculin et le féminin, mais en tout cas, le masculin, c'est la tsoura, la forme. Le féminin, c'est la matière. Encore une fois, bien sûr que dans la femme, il y a aussi du masculin et du féminin, et réciproquement. Mais il y a un grand principe que le zahar, ça vient de zecher, du souvenir, c'est le souvenir de la forme originelle. le Nekeva, c'est lié à Kov, c'est-à-dire à la notion de matière, et que l'alliance entre les deux est, comme dans la vie pour créer un enfant, l'homme amène la forme, le masculin amène la forme, et la femme est capable d'incarner cette forme. Oh, très connu comme thématique. Et on nous dit donc, il faut faire très attention que la forme, l'idée, la rigueur, l'intelligence, la Torah, ne s'abîme pas dans la matière. Qui a abandonné le masculin, l'homme, et à la traîne d'une parole affective, émotive, constante, il dissolve, il détruit la dimension du zahar, la dimension du masculin, la dimension de la forme pure séparée, qui exige des fois du silence, même avec sa femme. Et donc, on nous dit ici que l'apprentissage, et c'est ça, encore d'habitude, être spirituel, c'est très 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 difficile, puisque c'est entre, il faut demander de savoir ce que je dois parler si on en a vraiment besoin, et comment je dois arrêter de parler si c'est en vérité, on s'en rend dans une situation de destruction d'intelligence familiale. Et donc, on nous apprend aussi que même avec sa femme, c'est que c'est pas parce que quelque chose est cachère qu'il nous préserve de l'impureté. C'est pas quelque chose, on peut très bien manger très mal, même que les choses sont hyper cachères. C'est pas parce que quelque chose est dans les règles de la halakha que c'est autosuffisant pour assurer une pérennité de la réussite spirituelle. On dit, même avec ta femme, fais attention. Même avec ta femme. Et donc, on nous dit ici que celui qui parlerait trop, qui serait trop dans ce rapport de paroles superficielles, artificielles, entre l'homme et la femme, ça serait une destruction de sa part de masculinité, du masculin, qui est, dont le rôle fondamental est d'amener des dimensions de formes pures, séparées, qui vont illuminer toute la maison. Et quand on est tout le temps dans un discours qui ne veut plus rien dire, parler pour parler, on détruit cette dimension du masculin, et on détruit donc la spiritualité dans la maison, et à ce moment-là, dit le texte, c'est Gorem Ra le Atzmo, il amène le Ra, ça veut dire l'absence de sa réalisation. C'est Gorem, ça entraîne un bitul Torah, parce que après le sens de la Torah, ne peut pas, l'étude de la Torah, la pensée réelle, ne peut pas apparaître dans un tel logoré verbal permanente, et à la fin même, ça amène à des avérotes, à des péchés, puisqu'on dit, il y aurait l'enfer, lo alenu. Donc aujourd'hui, on va faire la Mishnah 6 et 7, Vav et Zayin, qui sont ensemble. Et là, on a Yoshua ben Chachia ben Itai Arbeli qui bloumem. Yoshua ben Chachia Omer, assez de Harav, c'est des Mishnayot très connus. Fais-toi un Rav. Ou Kne lecha Chaver et achète-toi un Chaver. Ve'ave dan et kol adam le kapsrut. Et n'oublie pas de juger chacun du côté positif. Ça, c'est ce que disait Yoshua ben Prachia. Nita et Arbali Omer, Achek Mishechenra, éloigne-toi d'un mauvais voisin. Ve altit chaber la racha, et ne t'associe pas avec le racha. Ve altit yaesh minapuranut, et ne sois pas désespéré de voir un jour la justice, le fait que les méchants, les affreux méchants, soient un jour punis. Alors, on voit ici que l'un a pris le positif, et l'un a pris le négatif. Aselech Harav, il faut comprendre le rapport Aselech Harav, et éloigne-toi d'un mauvais voisin. Connais les Chachaver, achète-toi un ami, ve al titraber la racha, et ne t'associe pas aux méchants. Evet dan et kol adam le kafsrut, soit capable de juger chacun avec le bon œil, et en corollaire, ne désespère pas de la justice. Donc on va essayer de comprendre le lien entre toutes ces choses-là. On est d'accord, on nous dit, la première chose qu'on nous dit, c'est assez les arabes. Se faire arabe. Ça veut dire quoi, se faire arabe? On fait pas un rav, on rencontre un rav. C'est à quoi faire un rav? Alors, Gaon de Vilna explique, lui-même il a eu ce problème, puisque le Gaon de Vilna très très jeune a été le plus grand rabbin de son temps. À l'époque du Gaon de Vilna, il n'y avait personne qui était aussi grand que le Gaon de Vilna. Pourtant, il a été voir un rav et il lui a dit, je voudrais que tu sois mon rav. Le rav lui a dit, mais ça sert à rien, je sois ton rav, t'es plus grand que moi. Il dit, si j'ai besoin, tu me dis quoi faire, même que tu viens te voir une fois par mois, que tu me cries dessus. Il s'est fait un rav. Se faire un rav, c'est d'être capable. Et c'est très important. Et pour ça qu'on dit se faire un rav. Parce que tant qu'on ne se fait pas un rav, on n'a pas de rav. Et ça, il faut bien comprendre. Il faut comprendre ici trois niveaux. Premier niveau, c'est que sans un rav, on est dans un cercle fermé de sa propre pensée. Le rav est l'acceptation d'une pensée qui n'est pas la mienne, que je pose comme supérieure à la mienne, qui est capable de bouleverser, de modifier mes points de référence intellectuels et conceptuels, qui me limite, qui me ferme à moi-même et qui m'empêche de grandir. Le fait d'avoir un rav et d'avoir un contact avec un rav, de lui poser des questions, de grandir avec lui, d'essayer d'apprendre de lui, c'est l'ouverture d'une dimension spirituelle, intellectuelle et conceptuelle qui bouleverse ma petite façon de penser pour m'ouvrir à des champs d'intelligence et conceptuelle de la Torah qui me dépasse complètement et qui, par là même, me font grandir. Donc, se faire un rav, c'est avant tout accepter de laisser, d'accepter que sa pensée soit sous tutelle, d'accepter, à un moment donné, de perdre son libre arbitre, d'accepter d'écouter l'autre comme une parole supérieure à ma pensée. Si on, et c'est très difficile aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on nous a tellement lavé le cerveau que la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté critique, tout ce que vous voulez, c'est vrai que c'est important aussi d'avoir une pensée à soi, mais si elle devient une idole, cette pensée à soi, si elle devient l'incapacité de l'éducation, de l'initiation, de la dimension verticale d'un enseignement, d'un maître, de quelqu'un, et le fait d'écouter un maître, d'avoir une relation au vertical, elle est essentielle à l'intelligence elle-même. Aujourd'hui, on est arrivé à des aberrations, où même dans les écoles, les enfants ne sont pas censés respecter les professeurs, au nom d'une sorte de soi-disant égalité de toute pensée, de tout individu. Ce qui est ridicule et qui est destructeur, qui est assassin criminel. Parce qu'on arrive à des enfants complètement déstructurés. Donc, se faire un rave, la première dimension, c'est la dimension verticale. Il y a, dans la vérité, des hiérarchies. Il y a des niveaux initiatiques. Et tout le monde n'est pas au même niveau. Et toute pensée ne se vaut pas. Et toute parole n'a pas égal. Et il y a des personnes qui ont travaillé énormément pour arriver à des niveaux intellectuels et spirituels qui ont à nous apprendre. Et mais comme on ne peut pas le faire avec la violence, le rav n'est pas là pour vous imposer son savoir. Donc, assez les rav. Toi-même deviens celui qui accepte cette tutelle au-dessus de toi. Première dimension. Deuxième dimension, c'est la dimension que assez harav, fais-toi harav, qu'il y a une tradition. Ça veut dire qu'il y a chaque, et c'est pour ça que c'est très important de choisir son rav. Chaque rav est comme les racines d'un arbre qui va créer plusieurs branches et plusieurs fruits. Et chacun doit trouver où est sa racine. Ça veut dire qu'il y a dans chaque individu une potentialité de spiritualité et d'intellectualité très haute, très forte. Il peut arriver très loin. Mais il ne peut pas arriver très loin s'il ne prend pas racine. Or, le rav, c'est sa racine. Parce que le rav, c'est celui qui est capable de féconder en lui, de découvrir en lui, de découvrir l'origine de ses questions et l'origine de son désir spirituel, et de lui montrer. Un homme sans rav est comme un arbre sans racine. Il n'a pas d'avenir. Le rav est celui qui donne, qui est à la racine même de l'âme de l'élève. Donc, Aselecha, Rav, c'est aussi choisir son Rav qui correspond par rapport à sa Neshama, par rapport à ce qui, en moi, a besoin de ce terreau spirituel pour grandir. Et troisième élément, qui n'est pas du moins important, c'est Aselecha Rav, c'est la notion de désir de vérité. Ça veut dire que j'ai besoin d'avoir envie d'apprendre de quelqu'un. J'ai besoin d'écouter une personne qui est lui maître en vérité, maître en idée spirituelle, pour qu'il me les donne. Donc ces trois notions-là, c'est assez rare. Qu'est-ce qu'on a en face? Qu'est-ce qu'on a en face? Arek Mishechenra. Éloigne-toi du mauvais voisin. Quel rapport? Un voisin, c'est pas un maître. Un voisin, alors c'est très important, c'est très intéressant. C'est qu'il vient nous dire, le voisin, c'est justement l'égalité. On est voisin, on a, je ne suis ni supérieur, ni lui supérieur, on est sur un plan d'égalité. Le hasard nous a fait qu'on a vécu ensemble. À côté l'un, à côté de l'autre. Éloigne-toi de ça. Parce que là, c'est un système. Il y a le hasard, le voisinage, on est au même niveau, et il est rat. C'est exactement le contraire du rabbin. Le rave, ça n'a pas de hasard. Comme on a expliqué dans le deuxième niveau, il correspond à ta racine. Il correspond à ta racine. C'est pas un hasard. Tu dois trouver le rave qui correspond à ton essence. Un voisin, tu ne le choisis pas, tu t'en fiches. Il est là à côté de toi. Deuxièmement, arek, éloigne-toi. Un rave, tu dois te coller à lui. C'est le désir de vérité. Ra, c'est le mal. Ça veut dire si le voisinage, en tant que voisinage, de véhiculer, de passer des valeurs du social, c'est ra, c'est par rapport au fait qu'un rave t'enseigne cette lumière infinie, cette dimension infinie du savoir et de la vérité dont on a parlé dans le premier niveau. Donc on voit qu'il y a une corrélation absolue entre le positif et le négatif. Deuxième chose que dit Yeshua ben Tracha, il dit « Connais les chachaver, achète-toi, Kinyan, un ami ». Alors cette notion, beaucoup sont interrogés sur le lien entre le kinyan, ça veut dire l'acquisition et l'amitié. À première vue, l'amitié, ça serait quelque chose de gratuit, quelque chose qui ne dépend pas de l'achat, quelque chose qui est en plus conjoncturel. C'est la vie qui a fait qu'on s'est rencontrés et qu'on s'est bien apprécié, etc., etc. Quel rapport entre le fait d'acquérir un ami? En quoi j'acquéris un ami? C'est quoi acquérir un ami? D'où vient cette notion d'acquisition? Alors là, ce serait important. Nous dit le Maharal de Prague, parce que l'acquisition, la notion de Kinyan dans la Torah, c'est la notion, justement, il y a la notion de Chibour, ça veut dire se lier à, et la notion de Kinyan. C'est pas la même notion. La notion de Chibour, c'est une sorte d'annulation de... Où A devient B ou B devient A. Ça, c'est plus A et B, c'est AB en même temps. C'est une sorte de... C'est comme deux vis qu'on serrait l'un dans l'autre. Le kinyan, c'est que ce qui n'était pas à moi devient à moi. Ce qui était étranger de mon réchoute rentre dans mon espace, devient à moi. Alors, ça voudrait dire quoi? Acquérir un ami. Acquérir un ami, ça veut dire élargir son existence. Acquérir un ami, ça veut dire je suis capable de ce qui n'était pas moi devient moi. Ce qui n'était pas lui devient mon lui. C'est-à-dire qu'à un moment donné où l'échange de l'amitié réelle, si vous préférez pour dire les choses simplement dans la Torah, c'est la capacité d'ouvrir des perspectives existentielles qui n'étaient pas présentes avant de connaître mon ami. Mon ami me révèle à moi-même des dimensions que je ne connaissais pas. Un vrai ami est quelqu'un qui est capable de t'enrichir, et toi tu l'enrichis, parce que tous les deux, on a la capacité, l'un et l'autre, d'acquérir. Ça veut dire quoi? De faire acquérir des niveaux de conscience, des niveaux d'émotion, et des niveaux de vie, qui auraient été impossibles sans l'autre. C'est ça la vraie amitié. C'est pour ça qu'il y a la notion de kinyan. Kinyan, c'est de faire rentrer quelque chose qui n'est pas à moi, chez moi. L'ami est capable de te faire rentrer des dimensions spirituelles qui étaient complètement tues et fermées, bouchées, sans l'ami. C'est ça un vrai ami. C'est quoi le signe d'un vrai ami? C'est qu'il t'apporte dans ta vie quelque chose que tu n'aurais jamais eu sans lui. C'est ça la notion d'amitié. Et des fois, l'amitié, elle peut être difficile. Il y a écrit krav, qui veut dire le combat. C'est les mêmes lettres que karov, proche. On peut avoir une amitié disputée, parce que c'est dur de s'échanger des richesses. Mais c'est une amitié. Alors qu'on pourrait avoir le contraire. Le corollaire de acquis un ami, c'est « Al titraber les rachats », ne te lie pas aux méchants. Là, c'est plus l'acquisition. C'est un lien. C'est un lien formel. On est ensemble. Pourquoi? Parce qu'on a rien à faire. Parce qu'on a peur d'être seul. Parce que pourquoi pas qu'on serait pas ensemble. Parce que avec toi, je me sens bien. Ou ce que tu veux. Mais qui n'apporte rien spirituellement. Ça, c'est un lien qui est lié, un lien du méchant. Un lien qui n'apporte rien. C'est pas une acquisition. Ne te lie pas au méchant juste pour te lier. Parce que tu as peur d'être seul. Parce que tu as besoin de compagnie. Parce que dans la vie, il faut bien avoir des amis. Si c'est comme ça, au contraire, tu es en train de polluer ta vie. Tu es en train de plomber ton existence. Tu es en train de détruire ce qui aurait pu s'épanouir en toi. L'ami est celui qui provoque un épanouissement spirituel. Le chibour, c'est pour ça que sheker, qui veut dire mensonge, c'est les mêmes lettres que kesher, qui veut dire le lien social, les liens d'amitié, qui n'ont aucun rapport avec un enrichissement, pas d'enrichissement culturel, je parle. Je parle d'un ami qui sera la révélation de quelque chose en moi qui était éteinte sans l'autre. Ça, c'est l'amitié. Alors que le chibour, rajouter 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, Facebook, je me suis fait un nouveau ami. C'est titramer la racha. Je me suis fait un nouvel ami, j'ai plein d'amis, vous avez plein de chibour, plein d'amis. Plein de chibour qui plombe l'existence. Qui détruit l'existence. Parce que c'est des fausses amitiés. C'est juste du lien. Du lien en hébreu, c'est kesher. C'est la même lettre que sheker, qui veut dire mensonge. C'est des liens qui plombent la vie. Et donc on a dit, acquérir un ami. Quand tu acquiers un ami, c'est aussi être capable de donner. Le lien, c'est gratuit. L'acquisition, il faut payer. C'est-à-dire qu'il faut donner pour recevoir. Pas au sens où c'est marchand, je donne, je reçois. C'est quand tu es capable de donner véritablement à l'autre parce que tu l'aimes comme toi-même, qu'il devient à ce moment-là un vrai ami qui t'ouvre, et lui aussi va te donner des choses parce que tu es comme lui-même. Et à ce moment-là, tous les deux, il va y avoir une sorte de fécondation réciproque où des dimensions poétiques, des paysages intérieurs vont s'ouvrir, qu'il n'y aura jamais dans le lien. Le lien, chacun reste chez soi, chacun reste dans sa coquille, et c'est juste des liens artificiels qui n'amènent que le rachat, qui n'amènent que le mal. Et le dernier point, qui est, alors là on ne voit pas tellement de rapport, Dan et Kol Adam les Kapsrout, juge chacun de façon clémente. Essaye toujours de voir dans l'autre que sa faiblesse n'est pas forcément si mauvaise, et vois que ses bontés et que ses beautés sont magnifiques. Vois l'autre personne sous un œil, sous un regard positif. Et d'un autre côté, on lui dit, Altitia Esh Minapouanout. Ne désespère pas que le méchant un jour soit puni. Bon, première vue, c'est presque opposé. C'est l'impact que c'est. Là, on te dit, vois les autres bien, et l'autre, là, on te dit, ne désespère pas de la pouranout. Là encore, l'intelligence de la vérité, du Pirkei Avot, c'est de te dire, sois capable d'avoir une relation avec chaque juif, avec chaque être humain même, de son point de lumière, de son point de beauté. Et il y a un rapport avec l'autre qui est dans le rapport de la beauté, de la vérité, pas de la mocheté. Mais que ça ne voile pas le fait qu'il y a nécessité de justice. Ça veut dire qu'on te dit les deux en même temps. Le fait que j'aime mon prochain ne veut pas dire que je dois renoncer qu'il y ait une justice un jour. Et le fait que je pense qu'il doit y avoir une justice un jour ne doit pas faire en sorte que ça vienne altérer mon rapport à l'autre. Amevin yavin.